France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour à tous. Il y aura bien de nouvelles restrictions instaurées en France pour lutter contre le Covid. L'exécutif ne s'en cache plus et prépare les mesures à venir. Une série de réunions est prévue avec un conseil de défense à l'Élysée dès ce matin en présence des ministres en première ligne, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ainsi que les autorités de santé. Dans l'après-midi, c'est Matignon qui prendra le relais. Jean Castex invite les principaux dirigeants politiques, puis les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et enfin les syndicats de salariés, les représentants des chefs d'entreprise. Les mesures seront ensuite annoncé demain à l'issue d'un second conseil de défense à l'Élysée. Plusieurs scénarios pour faire face à la deuxième vague sont étudiés. Extension du couvre-feu, confinement spécifique des personnes les plus fragiles ou encore confinement territorialisé. Par ailleurs, sur le front de l'épidémie, plus de 2700 malades du Covid sont désormais hospitalisés en réanimation. On note également une nouvelle hausse des hospitalisations ces dernières 24 heures. Près de 27 000 personnes ont été testées positives hier. Après les attaques, les soutiens, plusieurs dirigeants européens ont critiqué hier les propos de Recep Tayyip Erdogan envers Emmanuel Macron et l'appel au boycott renouvelé par le président turc. Allemagne, Italie, Chypre et Pays-Bas apportent leur soutien au président français. Recep Tayyip Erdogan demande aux Turcs de ne pas acheter des marques françaises. Pour lui, les musulmans en France subissent une campagne de haine comparable au traitement des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis aux États-Unis, le Sénat confirme la nomination d'Amy Coney Barrett. La juge conservatrice sera bien la nouvelle membre de la Cour suprême pour le plus grand plaisir de Donald Trump, qui est à l'origine de cette nomination et qui salue un jour historique pour l'Amérique. Cela inscrit un peu plus la haute juridiction du pays dans le conservatisme, avec désormais 6 juges conservateurs sur 9 au total qui sont chargés d'arbitrer les grands débats sur les sujets de société.
Passer l'émeraude de la célèbre cantatrice milanaise qui s'est invitée au château. Tintin revient sur France Culture dans les bijoux de la Castafiore. Fausse piste, rebondissement, cacophonie, qui mène le jeu?
N'est-ce pas que tu l'aimes déjà, ce bon capitaine Mastre?
Un ballet cocasse, truffé de malentendus, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française.
1 000 000 000 sabords.
Les bijoux de la Castafiore. Le feuilleton sur France Culture à 20h30, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h passé de 2 minutes, le temps du monde vivant avec Bruno David qui se penche ce matin sur le sonar du grand dauphin.
Été 1804, Napoléon observe les côtes anglaises depuis le camp de Boulogne. Il caresse le rêve d'envahir l'Angleterre. Une légende lui prête l'idée d'avoir voulu se faire aider par des dauphins. De sources plus sûres, les dauphins ont bien été enrôlés comme auxiliaires militaires. L'armée américaine a dressé des dauphins pour détecter des mines sous-marines et repérer la présence de plongeurs ennemis. Elle les utilisera lors de la guerre du Vietnam et durant la guerre contre l'Irak en 2003. Un programme similaire se poursuit en Russie. Loin de ces visions belliqueuses, les dauphins ont aussi été mobilisés à des fins pacifiques. Dans l'Antiquité, on leur prêtait la faculté de guider les bateaux égarés dans la tempête ou celle de porter secours aux naufragés. Sur la côte de Mauritanie, les pêcheurs Imraguen pêchent depuis plus de 4 siècles avec une population de dauphins qu'ils appellent en frappant la mer à coups de bâton. L'arrivée des dauphins pousse vers les filets des bancs de poissons. Hommes et dauphins partagent alors les prises. Quel animal marin peut se targuer d'une image aussi positive que le grand dauphin? Grand dauphin, dont le nom scientifique est Tursiops truncatus. Sociable, intelligent, sensible, curieux, le grand dauphin est un mammifère, un cétacé de 2 à 4 mètres, vivant en groupe d'une douzaine d'individus. Descendant d'un ancêtre terrestre qui a amorcé un retour vers le milieu aquatique il y a 55 millions d'années, les dauphins se sont parfaitement adaptés aux contraintes de l'environnement marin. Ils sont des champions de la nage, capables d'atteindre la vitesse de 60 km/h. Au large, ils plongent jusqu'à 200 mètres de profondeur. Leurs yeux leur permettent de voir aussi bien dans l'air que dans l'eau et dans une quasi-obscurité. Pour se repérer, ils sont équipés d'un sonar haute fréquence, aussi performant que le radar des chauves-souris. Bien que leurs ancêtres aient divergé depuis plus de 70 millions d'années, leur système de détection des proies par écholocation présente une convergence inattendue. Pourtant issus de trajets évolutifs totalement distincts, dauphins et chauves-souris disposent de la même protéine, la prestine, qui accroît leur sensibilité auditive. Étonnant, non? En plus d'organes d'essence perfectionnés, le dauphin est doté d'un gros cerveau dont les circonvolutions sont aussi denses que les nôtres. Cela nous a fascinés, surtout au fur et à mesure que l'on découvrait ses capacités de communication, un véritable langage. L'addition de ces caractéristiques fait que les dauphins affichent des capacités d'apprentissage étonnantes qui a poussé à les apprivoiser. Quoique, Bette Banyuls, à la fin des années 1980, une femelle dauphin avait l'habitude d'entrer dans la baie. J'ai une anecdote personnelle à son sujet. Un matin, à la fin d'une plongée, après avoir posé bouteille et détendeur, je me prélassais en surface lorsque ce dauphin est venu me voir, se collant à moi sans que j'aille à sa rencontre et cherchant manifestement le contact. Cette expérience émouvante m'a laissé l'impression que ce sont les dauphins qui apprivoisent les humains et non l'inverse. Quelle tristesse qu'aujourd'hui encore, les grands dauphins soient tués par les pêcheurs japonais ou norvégiens.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine tôt à la radio, et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter de bonne heure depuis le couvre-feu par exemple, et si vous n'êtes pas lève tôt, il y a bien sûr l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr ou en passant par l'application de Radio France. Notre semaine américaine se poursuit et nous emmène aujourd'hui à Marseille, aux portes des Calanques et plus précisément au château de Fourbin qui accueille désormais un centre d'art dédié au mouvement post-graffiti des années 80 et donc à la scène new-yorkaise de l'East Village. Les œuvres d'une vingtaine d'artistes pionniers de cet art sont exposées dans la collection permanente. Et ce matin, je reçois Caroline Pozzo di Borgo, commissaire de l'exposition et co-créatrice du château de Fourbin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Drôle d'endroit pour cette drôle de culture. On peut voir des œuvres de Dandy White, de Futura 2000, de Lady Pink ou encore de Days, on en parlera, dans ce château, un château très français. Bonjour Caroline Pozzo.
Bonjour.
Di Borgo, merci d'être venue de Marseille pour nous parler de ce musée. D'ailleurs, c'est un nouveau musée puisqu'il a ouvert ses portes.
Tout à fait, il a ouvert ses portes le 25 juin dernier, donc aux portes des Calanques à Marseille.
Dans le 11e arrondissement et dans un endroit vraiment superbe, le château de Fourbin, ou quand l'art urbain du graffiti, symbole de la révolte des jeunes New-Yorkais à la fin des années 70, se voit exposé dans un vieux château provincial. C'est quoi l'idée d'ailleurs de transformer ce château en musée?
Alors l'idée était justement de proposer et de montrer ses œuvres dans un endroit différent de ce qu'on pouvait voir habituellement, à savoir une friche ou un hangar désinfecté. Donc l'idée nous est venue de les montrer dans un lieu historique pour la Provence, puisque ce lieu a appartenu à Palamède de Fourbin, et le fameux Palamède au XVe siècle est celui qui a permis le rattachement de la Provence à la France. Donc il était avec Louis XI, et à la suite de ça, il a eu énormément de charges données par Louis XI, notamment la fortune, le commerce, et à la suite de ça, donc, il a acheté différents lieux, il est devenu propriétaire de différents endroits en Provence, à Marseille, dont le château de Fourbin, qui était au départ un relais de chasse. Donc petit à petit, ce lieu a évolué pour être ce qu'il est aujourd'hui, donc transformé au 19e, toujours par un palamède, donc, mais cette fois-ci au 19e siècle, avec par exemple des fenêtres Renaissance sur une des façades du château.
Et maintenant, c'est devenu un musée.
Et maintenant, c'est devenu un musée dédié au post-graffiti, donc à tous ces artistes qui ont commencé dans la rue dans les années 70, au début des années 80 pour certains, cette jeunesse qui était considérée comme une jeunesse vandale et hors cadre. quelque part, avec la fameuse bombe aérosol qu'ils utilisaient partout dans les rues de New York à cette époque-là.
Alors, c'est l'histoire du mouvement que vous racontez à travers la collection permanente. C'est aussi l'histoire de l'art qui bascule, c'est-à-dire qui quitte les rues, qui quitte les rames de métro, pour arriver dans le monde de l'art.
Ben, tout à fait. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la première exposition qui a eu lieu de ces artistes, donc issus du graffiti, date de 1974. Donc, c'est un jeune sociologue qui était en fac à l'époque, qui voit ces métros et ces rames circuler dans les rues de New York et qui a conscience que finalement, ces jeunes sont en train de créer quelque chose d'innovant et de différent par rapport à l'art généralement admis. Mmh. Et il décide de les regrouper et les exposer à la Razor Gallery à Soho. Donc voilà. Au final, ça a commencé par Soho pour être exposé sur les murs des galeries très tôt. Donc quand on dit que c'est un mouvement jeune, ça a quand même presque 50 ans maintenant. Et la question, est-ce que ça a une légitimité sur les murs des galeries ou pas, je pense plus forcément lieu d'être.
Alors Caroline Pozzo di Borgo, avant de vous lancer dans cette aventure, avant de créer ce centre d'art à l'intérieur même du château de Fourbin, vous étiez donc une collectionneuse de cet art.
Je suis toujours une collectionneuse de cet art, donc ça fait à peu près 15 ans que nous collectionnons avec mon mari.
Pourquoi ? Parce que ça vous renvoie à une époque de votre vie, de votre jeunesse.
Oui, certainement au graffiti que je voyais dans la rue.
Où, vous avez vécu à New York ?
Non, malheureusement jamais. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les graffitis et par le fait qu'à un moment donné, on ait envie d'écrire son nom dans un endroit, sur un mur ou sur un banc d'école ou à la fac ou quoi que ce soit. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça et à regarder et de fait arriver au graffiti new-yorkais et à toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans le graffiti new-yorkais, parce que c'est vrai que dans le graffiti new-yorkais, au départ, on commence par le tag pur, donc juste l'inscription d'une signature sur un mur dans une rame de métro, et peu à peu tous ces artistes ont fait évoluer le graffiti.
Ça part d'un manifeste politique vraiment, le graffiti ?
Le graffiti new-yorkais, pas forcément. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste un problème d'identité et un problème de positionnement par rapport à la société new-yorkaise, où ils se disent voilà, tous ces artistes font partie de ce qu'on peut appeler des minorités. Ils sont la majorité dans les entre guillemets, ghetto new-yorkais, un problème de revendication par rapport à ça et un problème de reconnaissance. Et ils utilisent la rue comme moyen d'expression.
Tous ces artistes sont les premiers, les pionniers de cet art.
Les pionniers de cet art, tout à fait. Ouais. Donc, ils ont créé différents styles, par exemple, la bubble, le wall style. Alors, la bubble, c'est une lettre que je pense tout le monde voit dans la rue à l'heure actuelle. C'est une lettre qui est très ronde et qui est très lisible, qui a été créée par un artiste qui s'appelle Face Two, que vous pouvez d'ailleurs voir à Fourbin. Ensuite, il y a un autre style qui s'appelle le wall style. Donc là, c'est un style qui est totalement illisible par les non-initiés. Le but, c'est qu'on ne le lise pas. Donc là, c'est un autre artiste qui s'appelle Tracy qui l'a inventé. Ensuite, ils ont créé aussi des styles où le lettrage commence à devenir un lettrage en 3D. Donc là, c'est Ali, par exemple, qui l'a mis au point. Et petit à petit, au-delà du nom même, donc on dit que le nom est la foi du graffiti, peu à peu, ils intègrent dans ce nom et dans ce lettrage des formes, donc des flèches, des carrés, des ronds. Ils intègrent aussi ce qui est de la culture de masse, donc les comics, les références qu'ils ont avec le cinéma, etc., pour créer donc sur ces fameux wallcars, donc ces rames de métro, toutes les œuvres qu'on pouvait voir circuler à New York dans ces années-là. Et le but étant, pour tous ces artistes qui avaient créé des crews, donc des groupes de graffeurs, d'avoir la meilleure ligne et d'être le king of style.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces pionniers ? Ils sont toujours
Alors, malheureusement,
vivants,
il y en a beaucoup qui sont décédés. Mmh. Et ceux qui sont vivants continuent à exercer leur art et à exposer dans les galeries du monde entier.
Et est-ce qu'ils sont cotés, comme on dit ? Est-ce qu'aujourd'hui...
Oui. Alors, très tôt, ils ont fait partie du marché de l'art, qu'on ne sait pas forcément non plus. Et certains de ces artistes sont vraiment cotés sur le marché de l'art.
Alors, Caroline Pozzo di Borgo, en plus de ce château de Fourbin, de ce lieu d'ailleurs magnifique, hein, c'est vraiment le château de Moulinsart. Et quand on rentre, et ben voilà, c'est New York des années 70, des années 80.
On est vraiment plongé dans cet univers, c'est vrai.
Mais oui, vous avez en plus, toujours à Marseille, une galerie qui s'est spécialisée dans le post-graffiti new-yorkais.
Alors c'est vrai qu'on avait...
Donc il y a déjà un public pour ça.
Alors il y a déjà un public, il y a un public à l'international, et ce depuis les années 80, depuis qu'ils ont exposé en galerie, parce que très tôt, dès le début des années 80, donc ils ont commencé à exposer dans des galeries à New York, très tôt ils sont partis en Europe, exposer dans des galeries européennes, telles que Jackie Cornbeat par exemple, qui a été un des premiers à exposer Ramelzi. Et très tôt, de fait, ils ont fait partie aussi des foires internationales, comme Days par exemple, qui a participé à ce qui était Art Basel dans les années 80. Et avec mon mari, on s'est dit que voilà, on était marchands pour continuer à être collectionneurs au final. Donc c'est vrai que c'est les deux, c'est marchands collectionneurs, un peu comme on peut l'imaginer au début du XXe siècle.
Qui est intéressé par des artistes comme Lady Pink ou Futura 2000?
Alors c'est assez vaste, dans le sens où ça peut être au départ, ça peut être des collectionneurs qui étaient collectionneurs d'art moderne ou d'art contemporain pur et qui ont décidé de s'intéresser à cette nouvelle forme artistique qui est un des derniers grands mouvements artistiques du XXe siècle, avec donc la spécificité des années 80 qui est la bombe aérosol, et spécifiquement la bombe aérosol avec un travail sans travail préparatoire sur la toile, ou de nouveaux collectionneurs, les milléniums comme on peut les appeler, donc qui ont une quarantaine d'années et pour qui cette culture, parce que tous ces artistes ont également donné naissance à cette culture qui est la fameuse culture hip-hop, qui décide d'avoir chez eux donc les pionniers de cette culture ou de ceux qui ont participé, parce que c'est vrai que les baskets, la musique, ça les renvoie à leur premier amour.
Musée, mais aussi un centre de résidence pour les artistes Caroline Pozzo di Borgo, comme si ce mouvement continuait en dehors de son contexte new-yorkais, en dehors de l'époque qu'il a vu naître.
Oui, tout à fait. Il est toujours en construction. Même les artistes eux-mêmes ont fait évoluer leur art. Donc, pour certains, ils continuent exclusivement à la bombe aérosol. Pour d'autres, là, ils utilisent de l'acrylique, l'huile pour certains. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui n'est pas du tout figé. De toute façon, le graffiti est basé sur le mouvement. Et par rapport à leur forme artistique, ils continuent dans le mouvement et à créer de nouvelles choses.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Discos don't open to after dark, and it ain't till 12 till the party really starts. And I always had to be home by 10, right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out, just for one reason, to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere, 'cause
the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night.
The freaks come out.
The freaks come out at night.
Now when freaks get dressed to go out at night, they like to wear leather jackets, chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts, real tight pants and fresh mini skirts. All kinds of colors running through their hair, and you could just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life and might not know they're a freak unless you see them at night, 'cause
the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night.
The freaks come out.
The freaks come out at night.
Now the party's jumping, the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I could buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in the park, they do it in the dark, but most freaks are known for breaking hearts. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut, and nine times out of ten, they drive you nuts. So take my advice, you don't stand a chance. Freaks are so bad, they got their own dance. So if you wanna live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night, 'cause
the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night.
The freaks come out.
The freaks come out at night.
Les pionniers de l'art urbain ont désormais un musée. Il est à Marseille, dans un château du 19e siècle, on peut le dire. Où...
Actuellement, les murs sont des murs du 19e siècle, mais la première pierre a été posée au 15e.
Voilà. Caroline Pozzo-Di Borgo, vous êtes la commissaire de l'exposition, mais surtout la co-créatrice avec votre mari de ce musée consacré à cet art qui vient quand même des rues de New York. S'il fallait parler maintenant des artistes, oui, les plus emblématiques, en tordant bien sûr le cou aux idées reçues. Par exemple, on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes au début.
Alors, si, il y en a eu une qui s'appelait Lady Pink, qui a été une des premières femmes à aller dans les dépôts, parce qu'il faut encore se remettre dans le contexte de création au départ de la rue, et qui est passée très tôt sur les toiles. Donc, par exemple, à Forbin, vous pouvez voir une œuvre qui date de 1981.
Et qu'on va retrouver, d'ailleurs, à la page du Réveil culturel, en passant par franceculture.fr. Oui, alors, s'il fallait parler de cette toile.
Alors, cette toile, donc, typiquement, est une toile qui a été réalisée uniquement à la bombe aérosol, sans travail préparatoire, avec une dextérité extrême au niveau du maniement de la bombe, parce que c'est vrai que toutes ces œuvres, quand on fait l'école des beaux-arts, quand on a un pinceau et une palette de couleurs assez vaste, ça peut paraître simple pour ceux qui sont doués en dessin. En revanche, quand on a une bombe aérosol à la main, arriver à faire ce genre d'œuvre, c'est différent.
Et c'est pour respecter l'esprit du graffiti qui était déjà là, c'est-à-dire de travailler très très vite, parce que on peut être arrêté par une patrouille de police.
Ah ben c'était des vandales au départ, donc ils avaient cette dextérité qu'ils ont continué sur toile. Donc certains artistes ont fait sur toile ce qu'ils faisaient dans la rue, tels que Blade par exemple, et d'autres ont fait peu à peu évoluer leur art et leur style, tels que Lady Pink, donc qui a fait évoluer son travail sur toile. Pour moi, ça représente une elfe. Après, à chacun, ça reste de l'art, donc à chacun à voir ce qu'il veut voir. Mais c'est ce côté un peu... Elle était très jeune quand elle a commencé dans la rue, elle avait 15 ans, et c'est une œuvre qui est assez féminine, je trouve, et qui représente assez bien cet univers qui était quand même un univers de violence qu'on ne retrouve pas sur la majorité des toiles. Et c'est ça aussi qui est assez surprenant dans cet art, c'est la différence entre ce qu'il pouvait vivre au quotidien et ce qu'il faisait sur toile.
Elle date de 1981. S'il fallait passer à un autre artiste, un artiste plutôt connu, Futura 2000.
Alors Futura 2000, tout à fait. Donc là, par exemple, donc nous avons une dizaine d'œuvres exposées pour cette exposition inaugurale, et une, par exemple, qui date de 1988.
Retrouver sur franceculture.fr, à la page de l'émission Le Réveil Culturel.
Qui est un des premiers poetsmen qu'il a fait, puisque très tôt, il a réalisé donc, des œuvres. C'est un des maîtres de l'abstraction. Et en introduisant des personnages qui s'appelaient des poetsmen et des H-men. Et Futura a été un des premiers à partir et à exposer en Asie avec cette spécificité-là pour ces personnages.
Est-ce que l'art ou les tableaux de ces artistes post-graffiti racontent quelque chose, délivrent un message ?
Je pense que ce qu'ils veulent montrer, c'est la liberté. Dans le sens où ils se sont affranchis des codes de l'époque, ils étaient dans la rue, ils se sont appropriés l'espace urbain, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, et ils ont continué cet esprit-là sur toile, avec une volonté de mettre ce qu'ils étaient, ils étaient jeunes, quand ils sont passés sur toile, et de prolonger cette jeunesse et cette insouciance.
Est-ce qu'on peut faire des liens avec le pop art ?
Alors tout à fait, puisqu'ils ont commencé, certains artistes, à exposer dans les mêmes galeries que les artistes de pop art. D'ailleurs, une des premières expositions qui a utilisé le mot de post-graffiti, c'est la galerie Sidney Janis en 83. Et cet artiste-là a été un des premiers à exposer les artistes de pop art. Et il faisait partie également de cette scène d'East Village, ou de cette scène new-yorkaise, où c'était vraiment un regroupement d'artistes. Et beaucoup de ces artistes ont fréquenté Andy Warhol. Ils étaient dans le
Basquiat,
même groupe d'amis.
Bien sûr.
Basquiat, Kessaring, enfin tout ce groupement qui va au-delà du post-graffiti, au-delà du mouvement pop art, c'était juste des artistes qui étaient dans la même ville au même moment.
Ceux qui connaissent très bien ce mouvement connaissent Dandy White, mais je vous laisse le soin, Caroline Pozzo di Borgo, de nous parler de cet artiste. Pourquoi est-il si important dans ce mouvement artistique ?
Alors, Dandy White est considéré comme le style master général, c'est-à-dire qu'il est arrivé à une dextérité au niveau de la bombe aérosol et à une forme stylistique très spécifique, reprise par de grands nombres d'artistes à l'heure actuelle à travers le monde. Il avait une obsession, c'était la finesse du trait et la volonté de ne jamais montrer lorsque le trait commençait et le trait finissait. Donc il a utilisé la bombe aérosol, il a également fait énormément de papier, énormément de collages, et il a créé un langage au niveau de la lettre très particulier. Donc là, par exemple, on peut voir une œuvre à Forbin qui s'appelle Pré. Et Pré était le petit nom qu'il utilisait dans la rue, puisque forcément, il y avait un problème de reconnaissance, mais il ne devait pas montrer qui ils étaient dans la rue. Donc, il se choisissait des noms spécifiques. Donc, pour certains artistes, parce que c'était un nom qui était lié à l'histoire. D'autres, parce que les lettres, lorsqu'elles étaient mises les unes à côté des autres, étaient belles et que les artistes sentaient travailler avec ces lettres. Donc, Dandy White a eu, par exemple, un de ses alias qui était Pré. Et lorsqu'il est passé sur toile, il a utilisé Dandy White, Dandy étant le petit surnom que lui donnait sa grand-mère.
Pour terminer cette exposition que vous êtes en train de nous préparer pour la semaine prochaine, une exposition consacrée à Days.
Days aussi est un des pionniers du graffiti new-yorkais, a commencé très tôt, dans les années 70, ça fait partie un des premiers de Sam Esses Studio, qui était un des premiers ateliers à la fin des années 70, au début des années 80, à présenter le travail de ces artistes. Donc là, on va lui... Normalement, il devait venir en résidence à Forbin, malheureusement, ça n'a pas été possible.
Pour des raisons sanitaires.
Donc il a produit l'exposition à New York. Et,
où il vit toujours.
Où il vit toujours. Donc il a toujours son atelier dans le Bronx, qu'il partage avec un de ses compères de toujours qui s'appelle Crash. Donc là, on a fait une résidence délocalisée quelque part. Donc il produit à New York, il nous envoie ses toiles et ses dessins. Et on va exposer donc dans la galerie Henri de Jardin de Forbin.
Forbin, donc, qui accueille désormais un musée, un centre d'art dédié au mouvement post-graffiti, va-t-il s'ouvrir à d'autres artistes ou vous voulez rester dans cette période-là de
non, alors, l'idée
des années 80 et surtout la scène new-yorkaise de l'East Village?
Alors, par rapport à la résidence d'artistes, l'idée, bien évidemment, est d'ouvrir à la création contemporaine, mais avec une ligne directrice, c'est que chaque artiste qui viendra en résidence à Forbin devra à un moment donné avoir un lien avec le post-graffiti ou avec le graffiti ou avec la ville de New York. Donc c'est pas parce qu'il y a un artiste qui nous plaît qu'on va pouvoir lui proposer une résidence. On veut qu'il y ait vraiment une continuité entre les œuvres produites en résidence et les œuvres qui sont exposées sur les murs dans le musée.
Et tout ça, pas loin des Calanques à Marseille, dans le 11e arrondissement, le château de Forbin. Merci beaucoup d'être
merci
venu
beaucoup à
nous
vous.
En parler, Caroline Pozzo di Borgo.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et notre semaine américaine continue sur France Culture. Nous, on se retrouve demain. Et demain, comme tous les mercredis, on parle de cinéma et on va rendre hommage à John Huston, à sa filmographie, mais aussi à sa bibliothèque. À demain.
As I was told, everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the great. I get it straight, he's great. Claim fame, cause his name is known in every state. His name is Jay, to see him play, we'll make you say, goddamn, that DJ made my day. Like a butcher.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Une certaine partie de l'Amérique blanche semble avoir perdu la tête et l'autre partie ne reconnaît plus les États-Unis.
Sur France Culture, LSD, la série documentaire, Perrine Kervan.
Alors, à quelques jours des élections présidentielles, LSD s'installe en Géorgie et il fallait bien un franco-américain pour nous guider au pays des Free Stupid White Male.
L'Amérique blanche en question, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes ?
Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla.
Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses de grandes enquêtes contemporaines, racontées par ceux qui les ont révélées. Pour ouvrir la série, un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré, enquête, déni, trahison, démission. L'affaire Cahuzac, racontée par le journaliste Fabrice Arfi, mécanique du journalisme, en podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'est une histoire qui s'écrit avec des pères pèlerins à bord du Mayflower, avec des pères fondateurs qui rédigent la Constitution.
Sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
C'est une histoire qui se perd dans la guerre de sécession, mais qui se retrouve dans un horizon lointain, le Far West.
Les mythes fondateurs des États-Unis, le cours de l'histoire, de lundi à jeudi à 9h05 sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Adrien Toffolé. Bonjour.
Bonjour à tous. Journée marathon pour l'exécutif qui se prépare à durcir les restrictions sanitaires pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie. Conseil de défense ce matin et demain à l'Élysée. Réunion à Matignon cet après-midi avec les parlementaires, chefs de parti et partenaires sociaux. Plusieurs scénarios sont à l'étude, de l'extension du couvre-feu au reconfinement, précision de Pierre Neveu. Tout est sur la table pour anticiper les effets de la propagation de la deuxième vague jusqu'en prison où le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a fait passer des consignes pour désengorger les établissements en aménageant les petites peines, éclairage d'Anne Fauquemberg. Et puis alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan exhorte à nouveau les citoyens de son pays à boycotter les produits français pour dénoncer les positions d'Emmanuel Macron sur l'islamisme, les Turcs sont partagés sur cet appel. Reportage à Istanbul d'Anne Andlauer. Ce n'est plus qu'une idée. Dans quelques heures, le durcissement des restrictions liées à l'épidémie de Covid sera du concret. Face à la deuxième vague qui touche durement le pays, le président de la République a décidé de réunir deux conseils de défense, l'un ce matin, l'autre demain, avec un mot d'ordre, pas question de perdre de temps, Pierre Neveu.
Depuis la rentrée de septembre, la doctrine de l'exécutif était « il faut vivre avec le virus ». Doctrine qui va évoluer au regard de la progression de l'épidémie et de l'inquiétude des médecins et épidémiologistes. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, expliquait hier encore que la situation était devenue critique. C'est donc une décision lourde de conséquences que va prendre le chef de l'État dans les prochaines heures. Avant d'annoncer de nouvelles restrictions, Emmanuel Macron a décidé de modifier son agenda. Il annule un déplacement au Creusot consacré à la filière nucléaire pour convoquer ce matin à l'Élysée un conseil restreint de défense et de sécurité nationale. Charge au Premier ministre d'expliquer et de convaincre les forces politiques et les partenaires sociaux dans l'après-midi. L'Élysée et Matignon privilégient la concertation avant ce qui semble être un tour de vis supplémentaire. La situation sanitaire impose de nouvelles mesures, extension du couvre-feu, confinement spécifique des personnes les plus fragiles, confinement territorialisé. Toutes ces mesures sont sur la table. Les derniers arbitrages seront rendus a priori demain matin à l'issue d'un nouveau conseil de défense.
Et pour ce qui est des concertations, le Premier ministre Jean Castex recevra à Matignon les chefs de partis politiques dans un premier temps, puis les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin les partenaires sociaux et les représentants des principales associations d'élus locaux. Pour les élus locaux, justement, comme Christophe Bouillon, président de l'Association des Petites Villes de France, cette réunion est une manière de les associés au processus de décision.
Il peut y avoir des aspects qui n'ont pas été bien anticipés. On l'a vu pendant le confinement. On a vu au moment de la reprise des cours dans les écoles qu'on a pu être entendu, écouté sur un certain nombre d'aspects. Donc ça a plutôt un exercice utile, même si, bien évidemment, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, tout ça ait fait l'objet d'arbitrage. Ça, on peut le comprendre, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est le rôle de l'État aussi, hein, dans une crise sanitaire majeure, de prendre des décisions. Après, la question, elle se pose souvent sur des éléments de correction qui peuvent intervenir dans l'application. Voilà, les élus locaux, ils ne sont pas là pour contester des décisions qui appartiennent, encore une fois, à l'exécutif. Mais en même temps, il y a parfois une utilité de dire à l'exécutif, attention, soit vous êtes allé trop vite, soit ce que vous nous demandez d'appliquer est complètement inapplicable.
Christophe Bouillon au téléphone avec Stéphane Robert. Sur le front de l'épidémie, plus de 2700 malades du Covid sont désormais hospitalisés en réanimation. C'est près de la moitié de la capacité en lit du pays qui est utilisée selon Santé publique France. Il est un endroit où la propagation du Covid est à surveiller en permanence. Ce sont les prisons où les détenus sont bien souvent les uns sur les autres. Le nombre de prisonniers en France a dépassé le seuil des 62 000 ce mois-ci, ce qui correspond à une densité carcérale moyenne de 103%. Il est urgent, aux yeux du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, d'anticiper les effets de la seconde vague. Il a donc écrit au procureur, mais aussi au directeur des services pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, Anne Fauquemberg.
Parmi ces détenus, près de 120 ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et 1050 étaient confinés il y a une semaine. Ces chiffres concernent les zones d'alerte maximale où se trouvent actuellement près de 16 500 prisonniers. Dans sa dépêche au parquet, Éric Dupond-Moretti demande de bien appliquer le nouveau droit des peines instauré par la loi du 23 mars 2019 et qui consiste à systématiquement aménager les condamnations de moins d'un an, explique-t-on à la chancellerie. Pour l'Observatoire international des prisons, il faudrait généraliser cette politique à toute la France, François Besse, l'un des responsables de l'OIP.
C'est partout qu'il faut résorber la surpopulation parce que même au moment où on était à 59 000, hein, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le nombre de places, quand on regarde au niveau national, il y avait des grandes disparités selon les prisons. C'est-à-dire que vous aviez des maisons d'arrêt où on était encore à 150%, 120%, etc. de taux de surpopulation. Et il y avait encore des gens qui dormaient sur des matelas par terre. Donc la surpopulation, elle demeure encore dans pas mal de maisons d'arrêt.
Ces jours prochains, alors que le nombre de parloirs diminue dans les zones d'alerte maximale, le ministère de la Justice allouera également 30 euros par mois de crédit de téléphone aux 16 500 détenus concernés. Il s'agit de maintenir le fragile équilibre au sein de ces établissements et d'éviter les mouvements de protestation, comme en mars dernier, au début du confinement.
Et alors que la deuxième vague et un éventuel reconfinement font craindre de lourdes conséquences économiques, l'Assemblée nationale a voté cette nuit en première lecture une partie du budget du plan de relance dédié à faire face à la crise économique causée par la première vague. 22 milliards d'euros de crédits débloqués pour 2021 qui font partie du plan global de 100 milliards prévu par le gouvernement. Le texte fera maintenant l'objet d'un vote solennel le 17 novembre puis d'un examen au Sénat pour une adoption définitive au plus tard le 18 décembre. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan n'a pas fini de flatter son électorat le plus religieux et conservateur. Le président turc a appelé hier ses concitoyens à boycotter les produits français. Après la dénonciation ce week-end des positions d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'islamisme assorti d'insultes, arrive de sa part désormais la condamnation économique de la France pour le traitement des musulmans supposés que le chef d'État turc juge discriminatoire, mais aussi pour s'opposer à la liberté de caricaturer le prophète de l'islam et la liberté d'expression dans la population turque. L'appel du président Erdogan semble reçu avec plus ou moins d'enthousiasme à Istanbul, à Nandloer.
Assis au soleil près d'une rue commerçante du centre d'Istanbul, Mustafa, un retraité, soutient son président quand il appelle à boycotter les produits de marque française.
On est obligé de soutenir cet appel. On n'a pas le choix. Tous ceux qui vivent en Turquie doivent le soutenir. C'est une façon de protéger notre religion contre ceux qui l'attaquent. Tous ceux qui vivent dans ce pays doivent la protéger.
Un peu plus loin, Metin, un marchand de fruits et légumes, se dit a priori favorable à l'idée, tout en s'avouant incapable de citer une marque ou un produit français qu'il consomme régulièrement et pourrait donc boycotter. Mais pour lui, c'est une question de principe, une façon d'envoyer un message.
Je vois ça comme une réponse silencieuse et mesurée. Chacun devrait respecter les croyances d'autrui. Aujourd'hui, vous insultez ce que certains considèrent comme sacré. Demain, d'autres vous feront la même chose. Cela n'apporte rien de bon.
Ediz, un barbier, est quant à lui beaucoup plus sceptique quant à l'efficacité des appels au boycott et des discours provocateurs du chef de l'État turc.
J'ai reçu sur WhatsApp des messages d'amis disant ne pas acheter tel produit ou tel autre. Mais à quoi ça va servir concrètement d'acheter tel produit étranger et pas tel autre? Moi, je préférerais qu'on essaie d'apaiser les tensions.
Ces appels au boycott, largement relayés sur les réseaux sociaux, ne semblent toutefois pour l'instant pas encore suivis d'effet dans les rayons des magasins turcs.
Aux États-Unis, une victoire de Donald Trump à une semaine de l'élection présidentielle. Le Sénat confirme cette nuit la nomination d'Amy Coney Barrett. La juge conservatrice sera bien la nouvelle membre de la Cour suprême pour le plus grand plaisir de Donald Trump, qui est à l'origine de cette nomination. La plus haute juridiction du pays a désormais 6 juges conservateurs sur 9 chargés d'arbitrer les débats sur les grands sujets de société. Les élections américaines sont scrutées partout dans le monde, y compris en Chine, où le Parti communiste chinois est réuni depuis hier pour 4 jours en vue de l'établissement du plan quinquennal, la feuille de route économique et sociale de la deuxième puissance économique du monde, une puissance qui est en guerre commerciale avec Washington. Alors l'élection américaine de mardi prochain peut-elle changer les rapports entre Pékin et la Maison-Blanche si Joe Biden est élu? Oui, estime François Godemans, sinologue pour l'Institut Montaigne.
C'est la première fois à une élection présidentielle américaine que la Chine marque une préférence qui n'est pas pour le détenteur du titre, mais pour son challenger, c'est-à-dire pour Joe Biden. Et elle commence même à faire des déclarations. Il y a eu la déclaration sur le climat, la neutralité carbone en 2060, même si c'est très loin. Une déclaration du président de la Banque centrale chinoise en faveur de l'internationalisation et de la libéralisation du yuan, de la monnaie chinoise. Il y a des ouvertures à des entreprises étrangères. La tentative d'accrocher une nouvelle administration démocrate pour revenir en arrière sur les mesures qu'a prises l'administration Trump. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui est important. D'un autre côté, on voit aussi que Xi Jinping est un amateur de rapports de force, et tant que le successeur de Donald Trump, si c'est Joe Biden, n'aura pas démontré non seulement une force vis-à-vis de la Chine, mais aussi une force sur le plan intérieur, la Chine continuera à tester l'administration américaine.
François Godemans, invité hier soir du journal de 22h de France Culture. Les prévisions de Météo France nous annoncent un temps maussade aujourd'hui. Ciel couvert et pluie sur une bonne moitié ouest du pays. Ailleurs, le ciel sera nuageux. Seul le littoral méditerranéen sera baigné de soleil. Les températures minimales vont varier entre 5 et 11 degrés. Les maximales entre 10 et 19 degrés. C'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour cher ami.
Il y a 15 ans, jour pour jour, Ziyed et Bouna, deux adolescents qui cherchaient à échapper à la police à Clichy-sous-Bois, trouvaient la mort dans un transformateur électrique déclenchant des émeutes pendant près de 3 semaines. C'est l'occasion ce matin d'évoquer la politique de la ville.
Oui, l'urgence sociale dans les quartiers défavorisés fait l'objet de programmes spécifiques depuis 1977 sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Par la suite, c'est souvent après des émeutes que la dénommée politique de la ville est relancée, comme en 1981 suite aux émeutes dans le quartier des Minguettes ou en octobre 1990 à Vaux-en-Velin. Rénovation urbaine, mesures en faveur de l'emploi et du développement économique, zones d'éducation prioritaire, sécurité et prévention de la délinquance. Les résultats ne sont pas jugés probants, à commencer par les intéressés eux-mêmes. Ces quartiers populaires semblent concentrer tous les problèmes et les effets des politiques de la ville tardaient à se concrétiser. L'Institut Montaigne vient de publier un rapport qui projette une lumière différente sur cette situation endémique. Son auteur, Hakim El-Karoui, s'est attaché à l'aspect économique de ses programmes en renversant la perspective traditionnelle qui fait de ces quartiers une exception et en les replaçant dans l'économie générale de la France. Le rapport compare les quartiers pauvres avec le reste du territoire afin de comprendre leurs spécificités et proposer des solutions fondées sur un potentiel économique. Et d'abord en combattant les idées reçues sur les transferts sociaux qui s'élèvent à 6 800 € par an et par habitant en moyenne en France métropolitaine contre 6 100 € dans les quartiers prioritaires. Par exemple, le département emblématique de Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France, est pourtant le 8e département contributeur au financement de la protection sociale et celui qui en bénéficie le moins par habitant. Il y a en proportion moins de personnel hospitalier dans ce département très peuplé que dans la France dite périphérique. Son dynamisme économique est également souligné. Entre 2007 et 2018, 29% de l'augmentation de la masse salariale en France s'est faite en Seine-Saint-Denis. Mais le rapport met en évidence le sous-investissement de l'État dans les domaines de l'éducation, de l'intérieur et de la justice. Quant au trafic de drogue, il ne représente qu'une faible part de l'activité économique des quartiers, environ 20 000 emplois en équivalent temps plein, soit 3% de la population qui y réside. Encore faudrait-il que ces trafics y soient tous concentrés, ce qui n'est pas le cas. Reste la pauvreté, les discriminations qui font le jeu des associations islamistes Pourtant, même si la part de la population immigrée est passée en Seine-Saint-Denis de 15,5% à 29,7% entre 1982 et 2015, la mixité ethnique et communautaire y demeure. Mais en matière d'emploi, c'est souvent l'adresse qui tient lieu de repoussoir. Antoine Tricot a mené une enquête au long cours et en immersion dans un quartier populaire de l'agglomération de Dunkerque à Saint-Paul-sur-Mer, ville ouvrière de 21 000 habitants. Son livre, Cheville ouvrière, essai de journalisme critique en quartier populaire, paru aux éditions Créafis, montre comment coexistent les mémoires dans deux quartiers différents et voisins, une cité-jardin de cheminots datant de 1920 et une cité HLM des années 1970. Je cite, la fierté ouvrière reste chevillée au corps malgré la montée du chômage, les enjeux politiques et les difficultés sociales. Son enquête démarre à l'occasion d'un projet de rénovation urbaine qui concerne les deux quartiers et va faire remonter dans les nombreux témoignages recueillis l'attachement des habitants à leur lieu à travers les histoires contrastées et mêlées d'anciens cheminots et d'ouvriers de l'usine ArcelorMittal présente sur le territoire. Les cheminots se réunissent à la maison des associations à Guinemer, la cité HLM, et les jeunes de Guinemer, eux, jouent au foot au stade cheminot. Antoine Tricot n'élude pas les problèmes de violence et d'insécurité, notamment liés au trafic de drogue. Les habitants d'ailleurs en parlent sans détour, mais il souligne également que les chiffres de la délinquance viennent relativiser l'importance du phénomène et leur augmentation reste inférieure à celle de l'agglomération de Dunkerque. On est loin de l'image catastrophique que donne de la banlieue le journal télévisé de 20h, uniquement focalisé sur les faits divers et les émeutes. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce livre, remettre en chantier un journalisme situé, un journalisme critique qui fait la part belle à la parole des habitants, jeunes ou moins jeunes, dans la ligne de ce que Raphaël Meltz a tenté dans son magazine curieux, Le Tigre, donner au lecteur la possibilité de réfuter ce qu'il lit, c'est-à-dire de le vérifier, le contredire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la Biélorussie, où l'opposition se remobilise derrière le mot d'ordre d'une grève générale.
Oui, pour tenter de relancer le mouvement de contestation dans le pays, 2 mois et demi après la réélection, très contestée évidemment, d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 à Minsk. Dimanche soir, un ultimatum lancé par l'opposition au président a expiré. Il lui était demandé de libérer les prisonniers politiques et de quitter le pouvoir. Le mot d'ordre d'une grève générale a donc été lancé pour la journée d'hier, 26 octobre. Alors précisons que ce n'est pas la première fois. Des mouvements sociaux et des blocages d'usines avaient déjà touché le pays au mois d'août. Mais cette fois-ci, il s'agit pour l'opposition de relancer une contestation qui semble marquer le pas et prendre date pour la suite. La grève, donc, pour tenter d'attaquer l'économie du pays. Mais de quels moyens disposent réellement les opposants au régime en place? Peuvent-ils changer le cours des choses à court terme? Leur stratégie est-elle au contraire basée sur des calculs plus loin? Et pour en parler, nous recevons Alexandra Goujon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine. Donc, Alexandra Goujon, premier jour de cette grève générale hier, à laquelle a appelé l'opposition. Et selon les premiers éléments que nous avons, des comptes rendus, il faut le dire, assez partiels, est-ce que cette grève est suivie? Libération, le journal Libération parle ce matin d'un pari largement gagné pour Svetlana Tikhanovskaya. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors, on peut dire que en fait, il y a eu une mobilisation plus importante que celle peut-être attendue dans les conditions actuelles de la répression. Une mobilisation qui a eu lieu dans plusieurs usines, certaines étant plus importantes que d'autres. Mais avant d'arriver à un blocage de l'économie, je pense que aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais comme vous le disiez précédemment, l'opposition cherche à créer du rythme dans la mobilisation, à créer des étapes, et cherche aussi à provoquer en fait les autorités sur des nouvelles actions et également éventuellement à les épuiser dans leur technique de répression.
Alors, on a le sentiment un peu d'un blocage politique, hein, évidemment, Alexandra Goujon, en Biélorussie. Le début de cette grève, je le disais il y a quelques instants, fait suite à une nouvelle journée, donc c'était la journée du 25, de marche et de mobilisation à Minsk, selon une forme devenue un petit peu rituelle. Et des centaines d'arrestations ont toujours eu lieu ce week-end, dont certaines extrêmement violentes. Ça, c'est quelque chose qui s'est installé dans le paysage en Biélorussie, ces arrestations violentes chaque semaine derrière les manifestations.
Oui, les manifestations sont plus ou moins, on va dire, réprimées. Elles le sont en amont, ce qui là a été peu le cas, mais elles le sont surtout à la fin des manifestations. Là, peut-être par rapport aux autres dimanches, c'est qu'il y a eu l'usage de grenades assourdissantes, et c'est quelque chose qu'on avait moins vu ces derniers temps. Par contre, ce qui reste et persiste, c'est les arrestations, en fait, à tout va, de manière complètement inattendue et à chaque mobilisation. Et là, on a vu hier notamment des scènes, hein, de poursuites dans les rues de Minsk, puisque en dehors de la mobilisation d'ouvriers, il y a eu aussi des mobilisations d'étudiants dans les universités, puis qui sont allés marcher dans les rues de Minsk pour rejoindre une autre mobilisation devenue un petit peu traditionnelle le lundi, celle des retraités. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on voit une marche dans les rues de Minsk qui commence, et puis, à partir d'un certain moment, ces minibus avec les hommes masqués qui partent à la poursuite des manifestants. Et hier, il y a même ces hommes masqués qui sont allés jusque dans un appartement, hein, où s'étaient réfugiés des manifestants étudiants.
De quelles armes dispose l'opposition à Minsk et dans tout le pays, Alexandra Goujon? On parle des manifestations, donc selon des formes plus ou moins ritualisées, plus ou moins régulières. On sait qu'il y a aussi des appels de la population biélorusse qui se situe à l'étranger pour continuer les mobilisations. Il y a peut-être aussi des appels aux forces de sécurité. Quel est le panel, en quelque sorte, dont dispose cette opposition et qui justifierait aujourd'hui qu'ils s'attaqueraient à l'économie de leur pays? Est-ce que c'est une sorte de dernier recours après avoir tout essayé?
Alors oui, ce qui se passe, donc c'est un mouvement qui n'est pas, c'est un peu la particularité de ce mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas guidé par les leaders, c'est-à-dire que c'est un mouvement vraiment citoyen qui a essaimé, hein, dans toutes les villes, et si on le voit à Minsk, qui se mobilise notamment par quartier le soir. Donc il y a des mobilisations, j'allais dire, dans le centre de Minsk, puis après des mobilisations dans les périphéries. Et en fait, cet ultimatum, c'est aussi un moyen de reconnecter, si je puis dire, cette mobilisation de citoyens avec une leader, celle qui est en exil, puisque, je rappelle, la plupart des autres dirigeants, enfin l'ensemble des autres, on va dire, responsables politiques de l'opposition, sont aujourd'hui soit en prison, soit en exil. L'objectif, pour l'instant, j'allais dire à la fois des leaders, mais aussi des manifestants, c'est de rester pacifique. Mais de rester pacifique à un moment où le pouvoir continue d'utiliser la répression. Donc bien évidemment, un des risques, risque ou pas, mais c'est qu'une partie des manifestants cherche éventuellement des actions plus radicales. Et c'est cela qu'attend en quelque sorte le pouvoir en place, les autorités. On a vu hier encore des déclarations où notamment un responsable du KGB parlait de terrorisme, hein. Donc l'idée pour les autorités, c'est de montrer que le mouvement se radicalise pour pouvoir utiliser davantage la force. Et donc l'objectif, pour l'instant, tous les cas, de ce qu'on observe, c'est de rester pacifique, de chanter, de faire des chaînes de solidarité et en quelque sorte d'épuiser de cette manière-là le pouvoir. Mais les appels à la violence, pour l'instant, voilà, existent peut-être ici ou là, mais ne sont pas visibles du tout dans l'espace public. Donc effectivement, les ressources sont relativement limitées. Les ressources sont celles de ce qu'on va appeler la multisectorialité, c'est-à-dire de toucher vraiment l'ensemble des secteurs d'activité, mais de manière massive. Le problème pour les ouvriers, et certains le disent, hein, c'est que il y a des ouvriers qui ont des familles. Il y a un risque quand même, un certain nombre d'ouvriers qui se sont mobilisés sont renvoyés et donc il y a bien évidemment après des problèmes de survie économique. Et même si Svetlana Tikhanovskaya et son équipe ont mis en place un fonds de soutien capable de soutenir les ouvriers, donc on est vraiment dans cette dynamique de lien, soutien aux actions qui sont menées en Biélorussie, mais il faut dire que la répression quelque part peut dissuader une partie de la population. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais de là, arriver à une grève générale, bien évidemment, pour certains, c'est extrêmement coûteux.
Alors, surtout, Alexandra Goujon, que l'économie et le modèle social, c'est pas nécessairement ce qu'on penserait en tant que premier point faible de ce régime. On sait que le pouvoir affiche une certaine attention peut-être au bien-être des gens. La crise économique qui fait peut-être moins de ravages que dans d'autres pays. Et je reviens à une des questions dont on parlait un petit peu au début de cette émission. Est-ce que c'est une logique pertinente de s'attaquer à l'économie quand on est opposant en Biélorussie aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi s'inscrire dans une stratégie très globale, en sachant donc que ce pouvoir affiche en tout cas une forme d'attention pour les conditions de vie de la population ?
Alors en fait, je crois que depuis, si vous voulez, les répressions qui ont eu lieu au mois d'août, une partie de l'électorat de Loukachenko, qui était effectivement attentif à ce discours de la stabilité, d'une industrie maintenue dans une économie qui est très faiblement privatisée, ce discours en fait est beaucoup moins entendu. Hein. Tous les ouvriers qui se sont mobilisés au mois d'août ont quand même été frappés par les violences policières, et l'usage de la violence décrédibilise de plus en plus le discours de Loukachenko. Par contre, ce que l'on observe, c'est que l'économie est un point central pour les autorités. D'ailleurs, Loukachenko lui-même s'était rendu dans les usines, et si les ouvriers font grève quelque part, j'allais dire, c'est pas simplement, je veux dire, un problème bien évidemment en termes de production et de ralentissement de l'économie, mais c'est aussi une manière, si je puis dire, de piquer au vif Loukachenko sur un des aspects qu'il a beaucoup martelé pendant toute cette crise, c'est-à-dire la production, l'économie, et on le voit encore, il n'y a pas si longtemps, se féliciter de la production agricole. Donc en fait, c'est aussi pour vraiment lui signifier quelque part que, quelles que soient aujourd'hui les propositions économiques ou sociales qu'il fait, il ne sera plus entendu de la même manière. Je rajouterais aussi que, par exemple, le secteur numérique, qui est fortement mobilisé et dont une partie, quelques entreprises notamment, sont partis à l'étranger, ça aussi, ça peut gréver le budget biélorusse. Et donc, il y a déjà, on va dire, des signaux d'atteinte à l'économie, sans parler, bien évidemment, aussi d'un autre aspect qui est la gestion de la pandémie, et une gestion qui a été,
oui, qui a été très très critiquée, effectivement,
à la légère, et qui a aussi, si je puis dire, les répressions du mois doute se sont rajoutés à cette gestion-là, et ont vraiment atteint donc l'opinion publique.
Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Donc, un dossier évidemment à suivre dans les enjeux internationaux et sur l'antenne de France Culture ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et à Sciences Po, et vous êtes spécialiste de la Biélorussie.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
C'est une histoire qui s'écrit avec des pères pèlerins à bord du Mayflower, avec des pères fondateurs qui rédigent la Constitution.
Sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
C'est une histoire qui se perd dans la guerre de sécession, mais qui se retrouve dans un horizon lointain, le Far West.
Les mythes fondateurs des États-Unis, le cours de l'histoire, de lundi à jeudi à 9h05 sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver. Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Antoine Dulster, bonjour à toutes et à tous.
Alors dans votre billet d'humeur aujourd'hui, contre Erdogan, pourquoi ne pas lancer la guerre du kebab ?
Eh ben oui, pourquoi ne pas répliquer au boycott de la vache qui rit en appelant par exemple au refus du kebab ? J'ai entendu cette idée, une idée qui pourrait sembler excellente si elle ne se heurtait pas, Antoine, à d'importantes difficultés pratiques. Car figurez-vous qu'il existe une géographie du kebab en France, je l'ai appris dans le journal Le Parisien. Il y a une France, vous savez, du pain au chocolat et de la chocolatine. Et bien de la même façon, il y a une France du grec, alors c'est grosso modo l'Île-de-France, une France du Donner, Colmar, Strasbourg, disons, et une France du kebab, le reste du territoire. Mais aussi, et surtout derrière tout cela, on note une forme d'appropriation culturel, comme si le kebab, qui est aussi turc que la raviole, est dauphinoise, et je pèse mes mots, le kebab turc a été grécisé, ce qui pourrait donner des billes à Erdogan dans sa lutte contre la France, jugeant que l'affront là est allé trop loin. Il est en effet assez scandaleux de vouloir gréciser cette spécialité culinaire des peuples turcs nomades d'Asie centrale, une manière de nier le génie culinaire turc qui développe depuis des siècles cette alliance de pain, de viande, de sauce barbecue. Enfin, la sauce barbecue, peut-être, n'y était pas au départ. La plus ancienne mention du kebab remonte à la seconde moitié du XIVe siècle, Antoine. Un siècle plus tard, le voyageur bourguignon Bertrandon de la Broquière, avec un nom pareil, devait être du Quai d'Orsay, rapporte, je le cite, « Me firent les Turcs manger chair rostie ce soir qui n'est soit point cuite à moitié à beaucoup et la tranche en rostissant en la broche. » Erdogan serait donc fondé à mener un procès en appropriation culturelle contre les Grecs qui usurpent cette recette turque, prolongeant la réflexion sur l'intersectionnalité sur le terrain culinaire. Il est en effet temps de hiérarchiser les dominations gastronomiques. Le grec se frottant au kebab, la sauce yankee menant une offensive sur la viande, sans parler de la pita sioniste qui se rapproche de la frite belge, autant dire de la frite eurocrate. Voilà un beau projet pour le président turc, avec un risque, un seul, imiter le kebab, je veux dire finir par faire du surplace en tournant autour de lui-même.